Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 75, c'est l'édition spéciale. On est sur la chaîne principale Naotech, nous sommes le 10 janvier 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien en ce matin, ce vendredi matin. C'est le week-end, bientôt encore un jour de patience, un jour de travail. On a pas mal de choses à se dire. Aujourd'hui, je vais pas faire un récap de la semaine, mais je vais faire avec vous un petit récap du CES à travers des photos. Ça va être la première partie des news et après, on fera les news du vendredi. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cette émission, puisque il y a que le vendredi qu'elle se passe sur la chaîne principale, eh bien, le mug, c'est une revue de presse de la technologie. On la fait tous les matins, du lundi au vendredi, mais du lundi au jeudi, on la fait sur une chaîne secondaire pour pas que vous ayez trop de notifs sur la chaîne principale. Et puis, le vendredi, on se retrouve tous sur cette chaîne principale. Donc si vous êtes intéressé par les autres numéros du lundi au jeudi, pensez à vous abonner à la chaîne secondaire Naotech Live. Allez, on démarre tout de suite les news. Et les news ce matin, effectivement, normalement je fais un récap des news de la semaine, mais aujourd'hui, la plupart des news, eh bien, ça vient du CES. Et on va regarder ensemble, on va explorer ensemble une galerie de photos, qui ne veut pas se charger, bien sûr. On va y arriver, petit bug du vendredi, rien de bien grave. Me fais pas ça, s'il te plaît, me fais pas ça. Et merde, il a perdu mon article. Ah! Et il a. Oh! Je vais y arriver. Je vous promets, je vais y arriver. Qui veut peu. Allez. Allez. Ouais. Non. Presque. Allez. Ah, yes. Hop. Je vais pouvoir vous afficher ça. C'est effectivement Popular Science. Un site qui est vachement bien d'ailleurs, hein, que je vous conseille si vous lisez un petit peu la langue de Shakespeare, qui a fait un petit peu un tour du CES en photo. On va faire ce, bien sûr, je vais décrire les photos, hein, pour ceux qui nous écoutent en audio. Et ils ont fait un petit peu ce qu'ils ont vu de plus étrange, de plus fou et de plus cool au CES. Donc, c'est pas forcément les grosses annonces du CES. Ça, vous avez un peu suivi dans la semaine. Merci beaucoup, Technisavoir, pour ton super chat en passant. Et on va voir un petit peu ce qu'ils ont vu. Et c'est vrai, moi, je suis allé au CES il y a 3 ans, hein, donc ça date déjà. Mais il y avait déjà ça. Cet endroit, c'est le tunnel LG. C'est presque devenu une tradition. LG montre ses technologies. Cette année, c'était des écrans mous qui faisaient comme ça un tunnel d'image. C'est ce qu'on voit sur cette photo. Un grand tunnel d'image. Moi, l'année où j'y étais, c'était des espèces d'immenses écrans OLED. C'est toujours très impressionnant et c'est un peu, alors il y a énormément d'entrées différentes dans le CES, hein, pour ceux qui connaissent le CES, en fait c'est dans plein de bâtiments différents à Las Vegas, mais c'est vrai que cette entrée LG est un peu devenue l'espèce d'entrée générale du CES. Le tunnel LG, c'est presque une tradition. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh ben, ce qu'on a vu, on en a parlé, je crois que Guillaume en a parlé hier, Lenovo avec un ordinateur portable avec un écran pliable. C'est un peu le Galaxy Fold en plus grand. Pour le coup, est-ce que ça a plus de sens dans un portable? Oui, parce que quand on l'ouvre, on a donc une surface utile pour consulter du contenu qui est vachement intéressante. Là, pour le coup, le nouveau est le premier à le faire. Ça irait très bien en surface. C'est une utilisation intéressante du Fold. J'aimerais bien le tester, là, ce petit truc, pour le coup. On continue. Alors, je ne vous mets pas toutes les photos, mais là, c'était la présentation de Samsung. Samsung, c'est vrai qu'ils ne sont vraiment pas arrivés les mains vides de CES cette année. Ils avaient énormément d'annonces. On va faire un petit peu le tri. Mais une des choses qui a le plus intrigué, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tellement dans le mug, c'est leur projet Néon. Alors, Néon, l'idée, c'est d'avoir des avatars qui ressemblent à des êtres humains, vraiment une copie de vous. L'idée n'est pas d'en faire des assistants personnels. Là, ce qu'on voit dans la photo, c'est la tête d'un de ces avatars, donc de Néon. Mais l'idée vraiment de Néon, c'est de reproduire le côté émotion. Et d'ailleurs, le sous-titre de la photo est assez marrant, puisqu'il dit les humains artificiels de Néon sont suffisamment vrais pour s'ennuyer au CES. C'est vrai que le CES peut avoir un côté un peu... Il y a tellement de choses, on passe beaucoup de temps à piétiner, on peut s'emmerder un petit peu pas mal. Mais si en tout cas ça vous intéresse, les progrès sur justement tout ça, les assistants, l'intelligence artificielle, allez voir un petit peu ce que Samsung a prévu du côté de Néon. Merci beaucoup Baron Marutan pour ton super chat en yen d'ailleurs. Et bientôt de retour sur Tipeee, on t'attend de pied ferme. Sony présentait aussi une voiture. Ça va pas être une voiture Sony. Ils montraient surtout toutes les technologies pour vraiment faire comprendre chez Sony que la technologie était partout et s'intégrait effectivement. Tout était connecté, que ce soit la voiture, votre téléviseur, les différentes choses. Donc, c'était une démonstration du savoir-faire de Sony que cette voiture, qui était assez jolie, hein, ceci dit au demeurant, mais Sony se lance pas du tout dans la voiture. Mais ça a pas mal impressionné les gens. Il y avait une démonstration aussi chez Sony au niveau du ping-pong. On voyait deux champions de ping-pong. L'idée, et vous le voyez sur les écrans qui sont derrière, c'était de capter de manière la plus précise et en temps réel le mouvement de ces champions de ping-pong et de les reproduire sur deux joueurs virtuels à côté. Donc là aussi, Sony montrait son savoir-faire au niveau de la captation des mouvements, ce qui vont être des technologies assez importantes avec effectivement l'avènement, s'il y a, hein, de la réalité augmentée, et pour d'autres choses, hein, cinéma, etc. Là, la différence, la capture des gestes, on sait le faire très précisément, c'est la capture en temps réel. C'est déjà autre chose. Également des grandes stars du CES, c'était les taxis volants. Là, on voit le modèle de Hyundai, qui sont pour l'instant pas mal des prototypes, mais on a vu le vol des premiers taxis volants de je sais plus qui, avec Uber d'ailleurs écrit sur le côté. Est-ce que c'est l'avenir pour une forme de déplacement? Vous n'allez pas aller au bureau avec un truc volant qui va se poser dans la rue. Hein. Je vous explique pas le bordel au-dessus de Paris, hein. Surtout en ce moment. Donc non, hors de question qu'on ait des tondeuses à gazon qui se baladent en ville. Mais par contre, pour faire des trajets, par exemple, entre les aéroports et Paris, ça peut être effectivement une forme de transport de demain, quoi. Donc, c'est la première fois que je viens sur ton live. Et ben écoute, bienvenue à toi, Agent Xiar. On espère que tu apprécieras la formule. Sache que c'est une formule qu'on fait tous les matins de la semaine sur la chaîne secondaire. Et on se retrouve tous les vendredis sur la chaîne principale. Également, alors c'était, je sais pas vous, hein, mais cette année au CES, ce qui était peut-être le plus remarquable, c'était au niveau des téléviseurs. On a vu des choses assez folles. Déjà, effectivement, grosse arrivée massive de la 8K. On a vu la télé de chez... C'est Samsung où il n'y a pas de bord, quasiment pas de bord. C'est assez incroyable. On a vu, et justement, on le verra après, des télés verticales. On a vu des télés molles. On a vu des télés immenses à plus d'1 million d'euros. Bref, on a vu beaucoup de choses. La 8K, alors il y a peu de contenu en 8K. Hein, il doit déjà y avoir une polémique dans la chatroom. C'est pour ça qu'une technologie qui se développe beaucoup dans les téléviseurs, et j'en parlais dans mon test de téléviseur LG, c'est l'upscaling. C'est d'avoir des processeurs qui vont prendre une image, par exemple 1080p ou 4K, l'interpoler dans la résolution supérieure en rajoutant les pixels qui manquent, en s'aidant de l'intelligence artificielle. Et les résultats sont assez convaincants. On n'a pas de la vraie 8K, on n'a pas de la vraie 4K, mais on a quand même une image supérieure au flux d'origine. Je sais que beaucoup se disent ça doit pas bien marcher parce qu'on peut pas vraiment créer des pixels là où il y en avait pas. En fait, si les algorithmes prédictifs, les algorithmes avec assez d'intelligence de deep learning sur les images arrivent à combler les trous, arrivent à mettre les 4 pixels qui manquent par pixel pour arriver effectivement à une résolution supérieure convaincante sans avoir un effet de blur ou ce genre de choses. Donc ça, c'était quand même les processeurs dans les télés, c'était très très présent. On a vu aussi l'arrivée de la télé verticale. Moi, j'avoue être un tout petit peu sceptique là-dessus. J'ai du mal à mesurer, je sais hein, aujourd'hui qu'une grande partie de la population, tout âge d'ailleurs, a pris l'habitude de regarder beaucoup de choses en verticale, et de la vidéo en verticale, les stories, etc. J'ai pas l'impression que les formats longs en verticale... on a vu hein, des tentatives avec, je crois que c'était Pils ou des trucs comme ça, des tentatives de séries courtes en verticale. J'ai pas l'impression que le mode vertical, on en ait vraiment envie pour quelque chose qui dure plus de 15 secondes. Je suis pas sûr. D'ailleurs, pour vous dire, hier, je me posais une question. Je m'amusais, parce que j'ai vraiment du temps à rien foutre en ce moment. Non, en fait, j'avais pas le temps, mais ça m'arrive de faire ce genre de truc. Je regardais les tout premiers, alors ça s'appelait pas le mug à l'époque, mais notre toute première émission live qui s'appelait le Techscope, et les tout premiers qu'on faisait sur Periscope en vertical. Et c'est vrai qu'on a abandonné ce format vertical parce que, bah, notamment pour des gens de l'image comme nous, c'est peu satisfaisant de faire une image verticale. Mais ça avait quand même un certain intérêt d'ergonomie. Pour tous ceux qui regardent l'émission sur un smartphone, et je sais que vous êtes nouveaux, il y avait quand même... Donc, voilà, si la télé verticale prend et que toute une génération veut regarder que du contenu vertical, ok, bah, je remettrai mon live en vertical. Je vais faire un sondage. Periscope, ah, c'était bien. Non, c'était pas si bien que ça, parce que Periscope, c'était un peu pourri quand même. Mais, alors, précision quand même, ces télés permettent les deux. Elles ont un moteur derrière qui vont leur permettre de pivoter. C'est pas juste une télé verticale, mais on va voir. On va voir. Moi, j'ai du mal à y croire. On verra. On verra si ça prend ou pas. En diagonale, ouais, la télé triangulaire bientôt. Dans ta banque, c'est juste une télé installée autrement. Là, c'est une télé qui tourne. Oui, oui, l'idée, c'est effectivement de pouvoir avoir les deux formats. Un écran, et c'est bien qu'ils les aient mis dans leurs photos. Je l'ai trouvé assez impressionnant pour avoir regardé une démo dessus. Je suis pas suffisamment gamer pour investir là-dessus. Maintenant, si Samsung veut m'enfiler un pour que j'en fasse un test, appelez-moi, hein, Samsung. Mais c'est cet écran incurvé Samsung pour gamer, 49 pouces. De surface d'écran très immersif, plus recourbé. C'est pas les écrans un petit peu courbes qu'on a vu là, on a vraiment un côté très enveloppant de l'écran. Il a l'air assez chouette quand même. Je testerai bien ce truc. Non, mais il n'y a pas la place chez moi, Jérôme, sois raisonnable. D'où est-ce que tu mettrais un truc comme ça? Bon, je ferais de la place. La cuisine, ça sert pas à grand chose. Non, Jérôme, sois raisonnable. Ça remplace pas trois écrans, c'est vrai, mais pour un côté immersif dans le jeu vidéo, je trouve ça mieux que trois écrans personnellement. Je trouve ça mieux. Bref, hein, Samsung, appelez-moi. La réalité virtuelle, la réalité augmentée, chaque année, c'est le gros débat CES, ça prendra pas. En tout cas, de nouvelles choses arrivent. Moi, je pense qu'on commence à arriver pas très loin d'un sweet spot au niveau de la réalité virtuelle. Je dis ça en parlant d'Oculus Quest. Des prix 200, 300... Dans les 200, 300, 400 dollars, avec une technologie sans fil, ça peut commencer à convaincre les gens. S'il y a les jeux qui suivent, on verra. Mais là, on a commencé à voir des choses, comme cette très belle photo d'ailleurs, d'un gant à retour de force, parce que ça sera aussi un des enjeux de la réalité virtuelle, c'est de vous donner du feedback sensoriel, quand vous tenez un objet dans la main, qu'on le sente vraiment dans la main, ça va être ce type de gant. Alors, je vous conseille pas d'essayer de choper votre mug de café avec, hein, parce que là, vous risquez d'avoir un problème, en vrai. Mais par contre, votre mug de café virtuel, vous le sentirez au bout des doigts. Hein. Maintenant, il reste à faire un truc pour la langue, pour qu'on ressente le liquide qui coule, et « Ah, il est trop chaud, mon café !» et qu'on se brûle virtuellement. Franchement, c'est que de l'innovation, tout ça. On a vu aussi des boules de hamster, hein, boules de hamster qui vont nous permettre, en réalité virtuelle, de marcher dans tous les sens. Une vision assez effrayante de l'humanité, hein, mais en même temps, ça doit être assez cool. Mais en même temps, je me dis, ça va être trop fatigant. C'est tout le problème de la réalité virtuelle au niveau des mouvements. C'est que si je suis obligé de courir des kilomètres dans Fortnite comme mon personnage le fait, je suis mort au bout de 2 minutes, quoi. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Je ferai une présentation du gant. Écoute, je sais pas, hein, mais peut-être. La boule de hamster, là, on va avoir un vrai problème de place. Mais j'avoue que ça me ferait bien délirer, la boule de hamster. Non, mais ça va faire du sport. Non, mais vous vous rendez pas compte, au-delà du sport. Vous imaginez un jeu comme Witcher 3, hein, sans cheval. Si vous deviez parcourir tous les kilomètres que fait votre perso pour aller cueillir des marguerites et aller tuer des goules, hein, vous seriez mais crevé en 2 minutes, quoi. J'ai joué à Fortnite. Je suis pas très bon en Fortnite, donc j'ai un peu lâché Fortnite. Merci Romain pour ton super chat. Également, ce qu'on commence à voir arriver, c'est des viseurs de réalité augmentée, de plus en plus portables, de moins en moins. Alors là, la photo dit oui, ces lunettes-là sont assez discrètes. Il faut préciser que là, elles étaient attachées à une barre pour pas que les gens les volent, mais normalement, on les pose sur le nez. Je sais pas si elles sont plus discrètes, mais je trouve que la photo est assez effrayante. J'imagine un open space au bureau avec tout le monde chaussé de ces lunettes-là. Ça va faire un petit peu peur, les binoclars. Mais bon, hein, réaction de vieux con. En tout cas, ça devient de plus en plus léger, de plus en plus portable, beaucoup plus convaincant que certaines choses qu'on a vues. Là, c'est les lunettes de Enreal, hein, qu'on voit ici au CES. Également, innovation au niveau de la nourriture, et c'est vrai que c'est quelque chose, et je suis impatient de faire des tests sur la chaîne, pourquoi pas lancer un segment food tech. C'est vrai que je commence à m'y intéresser et j'ai bien envie de faire un peu des dégustations de ces viandes impossibles, ces viandes végétales reproduisant. Là, cette année, ça, ils ont d'ailleurs eu un prix Impossible Meats avec une viande de porc, une simulation en tout cas de viande de porc à base végétale. D'après ce que j'ai lu, il paraît que c'est excellent. Moi, j'ai toujours dit que je suis prêt, mais vraiment prêt, si, un, les vertus écologiques, les vertus diététiques, les vertus de coût sont bien intégrées et qu'on m'a convaincu, je suis prêt à remplacer une grande partie de la viande que je consomme, peut-être pas tout, mais une grande partie de la viande que je consomme, tout ce qui est burger, sauce bolognaise, trucs comme ça, viande hachée, machin, je suis tout à fait prêt à franchir le cap si, effectivement, la simulation est convaincante au niveau du palais, parce que c'est pas non plus des recettes où on a besoin d'une viande extrême. Après, il m'en faudra peut-être beaucoup plus pour me convaincre par rapport à une bonne entrecôte, qu'on arrive à simuler une bonne entrecôte. De toute façon, ça, il commence à travailler dessus, mais c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, à voir. Moi, je suis assez curieux. Je sais que j'ai énormément diminué déjà ma consommation de viande. Après, je suis un carnivore, je l'assume. Mais c'est vrai que, bon... tout ça, c'est des innovations, moi, que je trouve intéressantes. On n'a pas le droit d'appeler ça viande en France, d'ailleurs. Oui, bon, on va dire viande simulée. Hein, voilà. Ça vaut pas la bonne viande, mais là, justement, c'est là où vous n'êtes pas très réaliste par rapport à ça. Est-ce que toute la viande que vous mangez est de la bonne viande? Est-ce que quand vous mangez rapidement, effectivement, au fast-food, et je parle pas forcément de McDo, mais jusqu'à un burger de chez Five Guys ou de chez Burger King, est-ce que s'il y a une viande hachée qui simule bien et qui a bon goût, ça serait pas mieux? Bien évidemment, je suis d'accord qu'une bonne viande, une bonne entrecôte, machin, ça va être difficile à simuler. Mais il y a tout un tas d'usages de la viande au quotidien, hein, pour faire des lasagnes, pour faire tout un tas de choses qu'on pourrait remplacer, je pense. L'image n'est pas très flatteuse. Alors là, c'est censé remplacer de la viande de porc. Je ne suis pas d'accord avec toi. De la viande de porc hachée, ça ressemble pas mal à ça, hein. Donc, à voir. Bon, il y avait aussi des barbecues connectés, des trucs de plantes, mais je ne peux pas parler de tout. Assez intéressant, des pneus aussi, développés par Bridgestone, qui sont entièrement en acier, je crois. Attendez, en stainless steel, en inox, quoi, mais avec un espèce de tissage du pneu, un espèce de pneu increvable, mais qui garde les vertus d'amortissement d'un pneumatique. Ça, c'est des prototypes, mais qui ont été déjà développés pour les rovers spatiaux. Est-ce que c'est des choses qu'on va voir arriver sur nos véhicules? À voir. On a vu des choses comme des drones qui volaient sous la pluie. J'attends avec impatience le test sous la douche, hein. Jérôme et son drone pour vous prouver qu'il est étanche, qu'il fait un test dans la douche et ça tourne mal, hein. Mais c'est vrai que c'est des choses qui clouent les drones au sol. Eh bien là, on avait des premiers prototypes, effectivement, de drones qui pouvaient voler sous la pluie. Fred qui nous parle de pneus en viande hachée. Fred, il faut pas faire un mix des articles, hein, hein, parce que après tu vas parler de pneus en viande hachée sous la douche. Ça va devenir compliqué, cette histoire. Non, je ne suis pas au salon de Las Vegas. Je n'affiche que des photos du salon de Las Vegas. J'y étais au CES il y a 3 ans. J'y suis pas allé cette année. Pour l'instant, on m'a pas fait de proposition pour que j'aille au CES dans des conditions satisfaisantes pour vous faire des émissions intéressantes là-bas. J'ai mes exigences, on va dire. On avait des choses en 3D. Intéressant, le petit robot de Samsung aussi qui vous suit partout. La petite boule Bali, un espèce de BB-8 personnel. J'y crois pas trop, mais je me trompe peut-être. On verra. On verra si ce genre de truc prend. On en a parlé, hein, dans la semaine, dans le mug. Alors, le robot PQ, ça, j'y crois beaucoup plus. Hein, un espèce de robot d'urgence. Hein, qui n'a pas vécu l'absence de rouleau de PQ dans les chiottes et qui aurait rêvé d'avoir un robot d'urgence qui vienne discrètement frapper à ta porte et t'amener ton rouleau de PQ? Hélas, ce n'est qu'un prototype et il ne sera pas commercialisé. Dommage, comme quoi les grandes innovations sont souvent méconnues. Intéressant au niveau des smartphones aussi, l'évolution vers le smartphone de gamer. Alors, il y a eu beaucoup de foirage dans les smartphones de gamer, mais on arrive à la croisée des chemins aujourd'hui. On arrive effectivement à de la puissance. On arrive aussi, et vous le verrez dans une vidéo sur la chaîne principale, qui, avec de la chance, sortira aujourd'hui, où je compare Stadia et Shadow PC. Le cloud gaming amène aussi, peut amener un vent de renouveau dans le fait de jouer sur son smartphone. Ici, on voit une coque de chez Razer avec un système de refroidissement intégré dans la coque. On a vu aussi des choses chez Razer avec, un peu comme la Switch, des systèmes de joypad qu'on met sur les côtés de son smartphone qui ont l'air assez convaincants. Là, j'ai pas une photo, mais on a vu aussi chez Alienware un prototype, alors je crois que c'est un prototype, mais ça va être commercialisé, d'un truc qui s'appelle UFO, qui est un mini PC de gamer qui ressemble vraiment à la Switch, hein, d'ailleurs. Ça peut être des choses assez intéressantes. Si on met ça en corollaire avec l'avènement du cloud gaming, il risque de, et de la 5G qui arrive, il va y avoir des choses intéressantes qui vont se passer de ce côté-là, même si on a le souvenir de magnifiques foirages, de tentatives comme ça, de faire des vrais PC de gamer. Mais aujourd'hui, l'offre est de plus en plus convaincante. Bon, on avait des douches connectées, on va pas s'arrêter dessus. Des masques de beauté, je vous dis pas comme ça fait peur. Je m'imagine avec ça sur la tronche et Marion qui rentre, quoi. Et tu mets la musique Freddy Krueger à fond. Je suis pas certain que je vais vous faire des tests de traitement de beauté avec des masques connectés, hein. Ça fait un peu peur. La pomme de terre connectée, on en parle tout à l'heure, c'est dans les articles. Là, je fais juste un récap. Il n'y a pas la pomme de terre, mais on en parlera tout à l'heure. Beaucoup de choses, hein, mais ça, moi, au CES, il y a 3 ans, quand j'y étais, il y avait déjà beaucoup de choses sur comment se relaxer, des espèces de capsules, des trucs comme ça. J'avoue que j'adorerais avoir ça pour faire la sieste. Hein, ça a l'air très, très confortable. Après, ça m'a l'air un peu petit pour moi. Ça m'a l'air un peu un modèle un peu petit pour moi. Je vais avoir les pieds qui vont défoncer les bords, moi. Mais ouais, je me verrais bien là-dedans. Monter mes vidéos comme ça, allongées, dans une capsule. Je ne vous dis pas la perte de productivité. On a vu aussi, effectivement, beaucoup de choses avec la 5G et les voitures. Il faut savoir que la 5G qui arrive, c'est pas que pour nos smartphones et qu'on puisse jouer ou télécharger des films illégaux de plus en plus vite. La 5G, c'est un gros événement pour les voitures, pour qu'elles communiquent entre elles, pour qu'elles communiquent avec la route. Donc, la 5G embarquée dans les voitures, ça a été aussi un des gros événements de ce CES. Très mignon, donc j'en parle, cette petite pelleteuse robotisée. Ça, en jouet, étant gamin, j'aurais trop kiffé, quoi. Je trouve ça, en termes de design, très réussi. Et une pelleteuse comme ça dans ma rue, je gueulerais même pas contre les travaux tellement c'est mignon. Je veux une pelleteuse. Ça va être mon mot d'ordre. Je veux cette pelleteuse. Je ne sais pas pourquoi faire, mais j'adore cette pelleteuse. bon, ça, on passe. Ça, intéressant. Alors là, on ne les voit pas très bien, mais c'est des lunettes de réalité virtuelle que Samsung a présentées, qui ont l'air assez légères. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont... Bon, il y a des contraintes aujourd'hui sur une lunette de VR, c'est que la surface doit être effectivement noircie et tout, mais ils ont fait un look assez cyberpunk, et ça peut paraître rien, mais c'est peut-être le truc qui manque pour qu'on ait plus envie d'acheter des lunettes de réalité augmentée. C'est Panasonic qui les présentait, je me suis trompé. Ah oui, Panasonic, pardon. Excusez-moi, c'est Panasonic qui présentait ça. Je trouve que le look est pas mal. Et ça fait un peu moins peur que d'avoir un espèce de pare-choc de bagnole sur le visage, parce que c'est un peu ça, hein, les casques de VR aujourd'hui. Ce petit côté cyberpunk, ça peut le faire. En tout cas, auprès des gamers, ça peut le faire. T'as passé le pommeau de douche au parleur? Ouais, j'ai un peu passé, ouais. Franchement, oui, après, c'est pas complètement inutile. Bon, allez, on le remontre. Voilà, un pommeau de douche au parleur pour pouvoir écouter le mug sous votre douche. Hein, je vais demander des versions gratuites pour vous les distribuer. Voilà, le haut-parleur douche. Le truc, c'est que on n'entend déjà pas grand-chose dans la douche quand même, parce que les gouttelettes d'eau... Il faudrait voir. Voilà, encore un test à faire, Jérôme sous sa douche. Décidément, hein, il y en a des tests à faire sous la douche cette année. Il fait un peu Vin Diesel. Ouais. Mais bon, franchement, je préfère avoir ça sur le visage que une espèce de grosse visière, quoi. Je suis sous la douche actuellement. Bon, alors, petit sondage dans la chatroom. Qui est sous la douche actuellement? Nous avons donc Morpheuse. Donc là, il y en a plein qui sont avec leurs doigts mouillés, qui essaient de choper leur smartphone pour dire « je suis sous la douche aussi ». Je veux pas savoir les autres où vous êtes. J'imagine bien, je sais très bien que certains nous écoutent sur le trône, mais je veux pas le savoir. Parce que si je me mets à penser à vous, ça me déconcentre. Le sondage essentiel à 8h30. Eh ouais, je suis comme ça, Oleg. On est vendredi, on fait ce qu'on veut. Voilà un petit peu pour les images marrantes, les trucs qui ont fait réagir du CES. Ce n'est pas un récap exhaustif hein, du CES, mais je trouvais que c'était une manière assez intéressante d'avoir un petit peu comme ça un panel à travers les photos de ce qu'on pouvait voir au CES. Et effectivement, il est 8h30, il va falloir que j'avance sur les autres articles, sinon on va être très très en retard. Je prévois quand même le quart d'heure, voire la demi-heure de retard cette année. Hein. Donc appelez votre boss, vous pouvez dire, écoute, là Jérôme traîne un peu sur le mug, les grèves, je vais être en retard. Voilà, vous pouvez le prévenir tout de suite. je suis au WC, j'ai plus de papier, besoin d'un robot. Ah là 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 là. Allez, on continue effectivement dans les news parce qu'il y a d'autres news que le CES. La grosse news aujourd'hui, c'est Quant, le moteur de recherche français qui change de direction. Effectivement, le fondateur et dirigeant depuis 9 ans du moteur de recherche français Quant, Éric Léandri, va quitter la direction opérationnelle de l'entreprise le 15 janvier. Il va être remplacé par Jean-Claude Ginosi, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est l'actuel directeur adjoint. Ce que nous précise justement Éric Léandri, c'est que l'année qui vient pour Quant est un petit peu l'année de tous les dangers. C'est l'année où il faut accélérer sur la monétisation. Quant perd beaucoup d'argent, hein, c'est pas un mystère, on avait déjà fait des articles là-dessus. Ce moteur français qui a été lancé en 2013, moteur de recherche, a l'ambition de proposer une alternative à Google, qui se veut davantage respectueux de la vie privée. Aucune information sur les utilisateurs ne sont gardées hein, par Quant. Ils ont quand même des renforts importants hein, Quant, c'est pas une petite tentative. Dans les plus gros et les plus connus, on a le groupe de presse allemand Axel Springer, mais surtout, et ça c'est assez intéressant, on a l'État à travers la Caisse de dépôt qui est un des gros actionnaires de Quant. En 9 ans, ils ont levé près de 50 millions d'euros pour se développer. Au niveau des parts de marché, alors la France a décidé d'en faire le moteur de recherche par défaut de toute l'administration française. Donc ça a aidé un petit peu les parts de marché. Parts de marché revendiquées 5%, même si des études parlent plus de 1% des parts de marché. C'est trop faible. Il va falloir effectivement booster. Effectivement, il y a eu des critiques envers Quant, notamment leur dépendance à Microsoft, puisque une partie des recherches, pour l'instant, sont des recherches de Bing, et Quant fait le reste. Quant assure qu'il progresse, hein, et que petit à petit, il aura de moins en moins besoin de Microsoft, jusqu'à arriver à une solution complètement autonome, où les recherches seront entièrement... les résultats de recherche seront entièrement fournis par Quant. Ça a été une critique. On a critiqué effectivement la perte d'argent hein, chez Quant. Chiffre d'affaires de l'entreprise ne progresse pas assez vite. Quant se finance grâce à la publicité, mais continue d'accumuler les pertes. Il devrait terminer l'année avec un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros, soit deux fois moins de ce qui était espéré. En 2018, Quant avait terminé l'année avec 5 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est une progression assez lente du chiffre d'affaires. C'est vrai qu'ils ont un business model qui est plus compliqué que celui de Google. Néanmoins, comme toute entreprise, il faut qu'ils progressent sur leur chiffre d'affaires et plus vite pour pouvoir investir. On leur reproche effectivement, en dehors de ces problèmes de croissance du chiffre d'affaires, d'avoir peut-être s'être un peu perdu. C'est vrai que Quant a essayé de lancer tout un tas de projets, il y a eu du Quant Music, etc., alors qu'il devrait se concentrer sur des fondamentaux hein, d'un moteur de recherche. Aujourd'hui, justement, ils ont un petit peu teasé l'arrivée d'un service d'email beaucoup plus privatisé justement que Gmail. Ce projet reste d'actualité et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Il y a de la place pour une vraie alternative d'email, notamment au sein de l'administration française, un service plus autonome. Mais par exemple, ils voulaient aussi mettre en place un service de paiement Quant. C'est des projets qui sont abandonnés. Il faut d'abord chercher la rentabilité, il faut chercher le profit, parce que le profit, c'est pas que s'en mettre plein les fouilles. Le profit, c'est pour pouvoir investir, grandir, grossir, conquérir des parts de marché, être plus fort face à Google. Donc, c'est des choses importantes. Moi, je souhaite bonne chance à Quant. Un changement de direction, ça peut être quelque chose d'assez positif. C'est pas un changement de direction hostile, en tout cas en apparence, puisque Eric Léandri va rester quand même à la direction de Quant, mais il va plus être le PDG en fait de Quant. Donc c'est voilà, c'est une reprise en main. Reprise en main quand même un petit peu par l'État aussi hein, de Quant qui a beaucoup investi sur ce moteur de recherche. Donc c'est pas une c'est pas une nationalisation de Quant, mais on va dire qu'en tant que principal, je crois, actionnaire de Quant, l'État a peut-être un petit peu plus son mot à dire. Quant on aime, on Quant pas. Oh joli Philippe, joli joli. L'autofocus est moyen. Oui, je suis avec le GH5S. Il y a du progrès dans l'autofocus, mais ça reste de l'autofocus Panasonic. C'est tout dire. Je vais refaire des tentatives avec le Z6 dès que j'ai le temps. Vous voyez, on a fait venir des nouveaux matos, des choses comme ça, pour essayer de résoudre encore le problème de synchronisation son. Donc, on y travaille et peut-être qu'il y aura un retour du Z6 pour filmer l'émission du matin. Je continue dans les articles. La transition n'est pas facile puisqu'on va parler de pédopornographie et d'Apple. Et effectivement, Apple a confirmé au CES qu'il scannait bien les photos que vous avez sur iCloud pour dépister les sujets représentant potentiellement des sujets pédopornographiques et du coup bloquer tout de suite les comptes où il s'avère effectivement que sur l'iCloud il y a du contenu pédopornographique. Mais par contre, Apple garde son mot d'ordre, ils ne transmettront pas ces informations aux forces de l'ordre. Alors, attendez avant de réagir, parce que je sais que chaque fois qu'on aborde ce type de sujet, il y a des réactions viscérales. Quoi ? Si Apple détecte... alors, d'abord, il n'y a pas qu'Apple, hein. En fait, Microsoft le fait aussi, d'autres le font. Là, on a juste la confirmation qu'Apple fait ça aussi. Il y a quand même un scan des photos sur le cloud pour détecter les contenus pornopédographiques. Le truc, c'est qu'Apple ne va pas dénoncer, en gros, ces pédophiles aux autorités. Ce qui peut paraître choquant, scandaleux. Apple, t'as un listing Oh, j'en perds mes mots. C'est pas facile comme sujet. De pédophiles, il faut le transmettre aux flics. Le problème, et c'est toujours le problème avec ce genre de choses. Il est très facile d'avoir ce raisonnement quand on parle de pédophiles. Pédophiles et terroristes sont aujourd'hui les grands diables cornus de nos sociétés. On ne peut pas trouver de circonstances atténuantes pour ces gens-là, c'est les grands coupables. Mais à partir du moment où vous commencez à ouvrir la porte de ce genre de système, je scanne la vie des gens et quand je repère des méchants, je les dénonce aux gentils. C'est la porte ouverte à tous les dérapages. Parce que, encore une fois, c'est très facile de dire le pédophile, le terroriste, c'est les grands méchants, eux, il faut les reporter. Mais qu'est-ce qu'un grand méchant ? Vous savez que de pays en pays, il y a des choses qui sont vues comme tabous, interdites, en Chine, dans des pays musulmans, dans ce genre de choses. Est-ce qu'on a envie ? Est-ce que les gens vont vouloir qu'Apple scanne leur contenu privé et, en gros, les dénonce aux autorités ? Une femme qui mettrait pas son voile et dans ses photos privées et qui pourrait être reportée dans des pays très intégristes, on n'a pas envie de ça. Donc, Apple sait très bien que s'il commence avec les pédophiles, ça peut pas s'arrêter là, en fait. Donc, c'est tout le problème. Mais je sais que c'est pas facile. C'est pas facile à entendre. Les pédophiles, c'est tout de même partout des méchants. Oui, mais Yves Castel resitue... on va pas partir sur un débat là-dessus. La pédophilie n'a pas été condamnée dans toutes les civilisations. Chez les Romains, par exemple, C'était assez coutumier. Chez les Japonais, dans les ères des samouraïs, ça se faisait d'avoir un amant-enfant. Ce n'était pas vu moralement comme quelque chose de répréhensible. Donc, les morales changent. Je ne dis pas que ça soit une bonne chose. Attention, c'est absolument pas un jugement de valeur. Mais c'est des choses... Faut manier ça avec beaucoup, beaucoup de pincettes. Il est très facile d'avoir un raisonnement brut en disant « ça, c'est pas bien, donc ça, faut dénoncer, ça, c'est bien, ça t'y touche pas ». La frontière, alors je sais qu'il y a une frontière immense entre des terroristes, des pédophiles et des choses plus shady, mais sans faire une analogie grossière avec un film très moyen, il y a beaucoup de nuances de gris dans le monde. Voilà. Ouais, le terrain est glissant, effectivement. Je veux pas partir dans ces débats-là, parce que alors j'ai aucune légitimité. Mais c'est quand même important de comprendre la position d'Apple, et c'est pas les seuls. Il y a d'autres sociétés tech aussi qui s'interdisent de transmettre des données aux autorités. La vie privée, c'est la vie privée, même pour des grands méchants. Après que Apple les bloque en interne, c'est très bien. Qu'ils les diffusent, enfin qu'ils transmettent les noms aux autorités spontanément. Après, n'oubliez pas que s'il y a une enquête sur un pédophile, Apple transmet les informations. Ne transmet pas forcément les documents et l'accès au smartphone du terroriste ou du pédophile, mais va transmettre les informations. Mais il faut qu'il y ait un mandat, enfin vous connaissez ce genre de truc, quoi. Surtout qu'avoir des photos de son gamin en maillot de bain en vacances pour... Oui, alors là, après, bien évidemment, j'espère en tout cas qu'ils ont des algorithmes suffisamment sophistiqués pour différencier une photo pédophile d'une photo de vos enfants en train de prendre un bain. On va pas rentrer dans l'étude de ça, on n'a pas envie d'y penser. Oui, je pense qu'ils ont des algorithmes quand même qui permettent de différencier. Les photos iCloud ne sont pas cryptées dans le device. Non, là, Apple a confirmé, effectivement. Alors, les photos sont chiffrées pour que personne ne puisse, mais Apple lui-même scanne quand même le contenu sur ces serveurs en usage interne. C'est ça qui est important pour l'usage interne, pour effectivement combattre certaines pratiques. On a passé beaucoup de temps sur certains articles. J'y reviendrai probablement, ça ne mérite plus d'explications, mais il faut qu'on avance dans les articles. Justement, là, on va parler un petit peu de Twitter. Twitter qui annonce un gros changement. Vous ne le pensez peut-être pas, mais il y a un gros changement, c'est que Twitter va permettre, depuis n'importe quel compte Twitter, de décider qui peut répondre à votre tweet. En fait, vous aurez 4 réglages de réponses possibles. Soit votre tweet, il est global. Tout le monde peut répondre comme maintenant. Soit c'est un tweet de groupe. Les gens que vous suivez ou que vous mentionnez dans le tweet peuvent répondre à votre tweet, mais pas les autres personnes. Ensuite, il y aura le tweet panel. Seuls les gens que vous mentionnez dans le tweet peuvent répondre. Et enfin, il y aura le tweet déclaration. Personne ne peut répondre à votre tweet. Là aussi, on est typiquement dans le genre de truc, on dit Twitter a un problème de toxicité aujourd'hui, Twitter est devenu toxique, la violence verbale sur Twitter est devenue énorme, le seul endroit qui est plus violent verbalement que Twitter, c'est les commentaires YouTube, je vous garantis, il n'y a pas pire, je trouve, que les commentaires YouTube aujourd'hui, mais Twitter arrive en bon second, et on se dit, c'est une bonne chose. Justement, des gens, on le sait, des gens se sont fait harceler, insulter sur Twitter. On se dit de pouvoir comme ça bloquer les réponses, c'est une bonne chose. Oui, mais, parce qu'il y a un mais. C'est quand même très dangereux. Jusqu'ici, Twitter était effectivement une grande place publique où tout le monde pouvait intervenir sur les tweets de tout le monde. Vous pouviez répondre au président des États-Unis, il vous lisait pas, mais vous pouviez répondre, l'insulter copieusement si ça vous chantait de le faire. Là, en limitant, ça va permettre justement à des personnes de balancer des déclarations sur Twitter sans qu'il y ait de contre-pouvoir qui puisse leur répondre. Alors, c'est là que ça peut, où ça peut devenir dangereux aussi, ce nouveau type de réglage sur Twitter. Twitter a quand même précisé, ça va empêcher la réponse directe au tweet. Mais si quelque chose vous choque dans le tweet de quelqu'un et vous voulez le dénoncer et le porter sur la place publique, vous pourrez le retweeter avec réponse. Donc engager un autre flux de conversation. Mais ça restera quand même la liberté de la personne qui a tweeté à l'origine de ne pas lire, de décocher la case « me montrer quand les gens me retweetent » et donc de ne pas vous lire. Si effectivement vous la retweetez en mettant en commentaire des insultes, au moins elle pourra décocher la case. C'est un truc important. On sait aujourd'hui, et on le voit notamment en Corée, je reviendrai là-dessus, on le voit aujourd'hui que cette toxicité en dehors d'une mauvaise ambiance est dangereuse. Elle a poussé certaines personnes au suicide. Il y a du harcèlement. Les gens font tomber les gants quand ils sont sur Internet, et notamment sur Twitter ou dans les commentaires YouTube. Les gens se permettent, mais n'importe quelle vacherie, se permettent de faire des grandes déclarations, toujours en plus en te disant « Oui, non, mais moi, je suis quelqu'un de franc. Espèce de connard, ta franchise, je vais te la faire avaler. » Les gens qui me sortent ça, mais c'est pas ça, la franchise. Bon, enfin, bref. La franchise, ce n'est pas dire tout ce qu'on pense, surtout sous couvert de l'anonymat sur Internet. Ça n'a rien à voir avec la franchise, ça. C'est de la couardise. C'est autre chose. Désolé, hein, ça m'énerve, mais j'ai vu des trucs qui m'ont fait bondir. Bref, je reviendrai là-dessus. Effectivement, aujourd'hui, et d'ailleurs, un truc qui est quand même super marrant, et tous les influenceurs, tous les youtubeurs vous le diront, on a parfois des gens qui nous ont laissé mais des commentaires, mais on se dit, mais c'est pas possible! On dirait que j'ai tué sa mère, quoi, tellement il est méchant avec moi. C'est absolument horrible. Et ces personnes, tu les rencontres en vrai, mais ils sont tout gentils. Ils n'ont pas un mot au-dessus de l'autre. En fait, c'est des gens, voilà, en face de toi, ils se permettraient absolument pas ça, quoi. Le courage derrière l'écran, effectivement. Et Jérôme, je voulais savoir si le mug, c'est que sur ta chaîne principale. Ben non, Isaac, c'est que le vendredi que c'est sur la chaîne principale. Les autres jours de la semaine, parce qu'il y a un mug tous les matins, c'est sur la chaîne secondaire Nowtech Live. Donc va vite t'abonner pour pouvoir suivre le mug tous les matins. Il a dit, espèce de connard, il a raison. J'ai vu ta censure, François. Ne répétez pas ce que je dis, hein, dans la chatroom, vous allez être censuré automatiquement par les bots ou par la Timothée. Moi, j'ai le droit de dire des gros mots, pas vous. On n'est pas en démocratie ici, hein. Je suis le chef et vous avez rien à dire, hein. On est bien d'accord. Je dérape. Bref, pour revenir au sujet, je pense que c'est une bonne chose. On va voir comment ça se passe. Il faut que Twitter retrouve une certaine sérénité. C'est beaucoup de gens actuellement s'éloignent de Twitter parce que c'est devenu trop toxique. Voilà. Le premier président de la dictature. Non, je suis un dictateur éclairé. C'est souvent ce que vont dire les dictateurs pas éclairés, qui sont éclairés, en fait. Je suis le premier dictateur éclairé par des ampoules Philips Hue. Allez, on continue. J'ai quand même un dernier article avant qu'on passe à la tartine. Oh, ça va être chaud. Avant qu'on passe à la tartine, on va parler de patates. Et ouais, les patates, c'est un sujet important. Ça m'a fait beaucoup rigoler et je pense que ça a pas mal buzzé. Effectivement, pour dénoncer l'absurdité et certaines présentations du CES, un entrepreneur français, Nicolas Baldec, ça s'invente pas. Désolé, Nicolas, si tu entends ça, a réussi à obtenir un stand pour exposer une patate, la première patate intelligente. Alors, je vais vous montrer un petit peu parce qu'on a peu de temps. Il avait carrément fait, mais toute une présentation, allez la voir sur YouTube, The World First Smart Potato, en parlant de l'importance de la patate dans nos vies et qu'il était important qu'on puisse communiquer mieux mieux avec les patates. Donc, il fallait qu'on ait des solutions intelligentes pour communiquer avec les e-patates. Donc, il fallait absolument une application, un système de patates connectées. J'avance un petit peu. Alors, il explique ça hein, très sérieusement. On voit effectivement une patate avec une antenne pour pouvoir rentrer en communication avec votre patate, savoir si elle va bien, comment elle se porte. La patate comme assistant personnel. Tout ça, bien évidemment, pour rendre le monde meilleur. Il avait même inventé des technologies de... Là, il montre que c'est facile de planter le Neural Sup dans la patate qui va s'auto-alimenter grâce à l'électrolyse produite par la patate. Bref, très belle dénonciation de l'absurdité d'une partie du CES. Encore une fois, moi, j'y étais il y a 3 ans. C'était déjà un report que je vous avais fait. Il y a des choses intéressantes au CES, mais il y a énormément de bullshit aussi. Il y a beaucoup de startups. On sent qu'ils sont là parce qu'ils ont une subvention régionale et qu'ils ont développé un truc qui ne sert à rien. Je ne donnerai pas de nom. Mais la technologie, c'est très bien, mais la technologie pour la technologie a quelque chose d'extrêmement ridicule. La technologie pour juste dire « Oh, regardez, on a fait un truc innovant sur le cloud, connecté, je sais pas quoi, assistant personnel, mais qui sert à rien. » J'ai vu des parapluies connectés, j'ai vu des conneries connectées, mais tout y passe, quoi. Il suffit de dire « Oh, j'ai un machin connecté pour avoir un stand de CES. » Il l'a d'ailleurs démontré. Il a eu son stand. L'opération lui a quand même coûté 4000 euros. D'ailleurs, cette patate, il la met en vente sur Indiegogo. Il va jusqu'au bout de son délire. Il y a déjà des gens qui ont souscrit à la e-patate. Donc, lui, ça lui a coûté hein, quand même de faire ça parce que 3000 euros, billets d'avion, chambre d'hôtel pour rester à Las Vegas toute la semaine. Ouais, ça coûte cher d'aller au CES. Plus 1000 euros pour avoir le stand. Mais par contre, il a passé, parce qu'il faut quand même demander une autorisation pour avoir un stand. Mais comme il a rempli son autorisation plein de mots-clés qui le font bien, il a eu son stand très facilement en mettant innovant, the cloud, etc. Voilà. Donc, je trouve ça culotté, je trouve ça rigolo. C'est bien de l'avoir fait. La frite connectée. La friteuse connectée, ça a déjà plus de sens, Pierre-Yves. On pourra en parler, mais la friteuse connectée, surtout que cuire à la friteuse, c'est un art difficile. Bien cuire à la friteuse, donc il y a un truc à faire avec la friteuse connectée, avec la température et tout ça. C'est la fin des articles de ce matin. Et ce matin, je m'étais dit que j'avais oublié quelque chose. Et oui, j'ai oublié quelque chose. C'est que nous devons parler de notre sponsor. Notre sponsor, c'est Shadow, le Shadow PC. D'ailleurs, une vidéo devrait sortir sur la chaîne principale. J'espère aujourd'hui, j'ai des petits problèmes d'export. Donc, c'est pour ça que je dis que j'espère qu'elle sortira aujourd'hui. Où j'ai comparé de manière très, très exhaustive. Hein, la vidéo dure plus de 30 minutes. Stadia et Shadow PC. Pour parler vraiment de ces deux offres, de pas démonter Stadia comme tout le monde l'a fait, en parlant quand même du potentiel de Stadia, et de parler de manière générale du cloud gaming. Donc je vous invite à guetter si la vidéo sort ce soir, peut-être lundi si j'ai des problèmes, mais j'espère ce soir, une vidéo donc sur Stadia versus le Shadow PC. Le Shadow PC, ils nous font le plaisir et l'honneur d'être les sponsors de notre live tous les matins, hein. J'allais dire, ils nous supportent. Vous aussi, vous nous supportez tous les matins. En tout cas, ils nous aident à faire ce live. Ils me permettent de rémunérer les autres présentateurs du mug, Marion et Guillaume. Ils permettent de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Ça motive aussi pour se lever à 6h du matin tous les matins de la semaine, hein, d'avoir un sponsor. Donc, on les en remercie. Et surtout, avec Shadow, vous pouvez gagner 1 mois de Shadow toutes les semaines. Avec notre, et c'est ça que j'ai oublié. J'ai oublié de déterminer le gagnant du jour. Donc, je vais le faire tout de suite après l'émission. Je vais lui envoyer un tweet. Il aura gagné. Mais je peux pas vous dire qui est le gagnant d'aujourd'hui. J'ai oublié de faire la manip, hein. Errare humanum est. Voilà. Je ne suis que humain. Je ne suis pas une intelligence artificielle. Donc, si vous aussi vous voulez gagner quand même 1 mois de Shadow, parce que c'est cool de gagner 1 mois de Shadow, ça vous permet de le tester, c'est très simple, vous suivez le Twitter de Shadow, Shadow _ France, et vous composez un petit tweet où vous nous dites pourquoi vous avez envie d'avoir un Shadow PC pour jouer à tel ou tel jeu, ou utiliser telle ou telle application. Important, il faut que vous mettiez le hashtag le MugNowTech et le hashtag ShadowPC dans ce tweet pour que je puisse vous retrouver le vendredi matin quand je pense à faire le tirage au sort pour déterminer le gagnant tous les vendredis. Non, je peux pas le faire en direct, Yves, parce que nous, on fait les choses bien. D'abord, nous avons une méthode de tirage au sort aléatoire. Et surtout, je vérifie quand même que les personnes suivent le Twitter de Shadow. Enfin, et je vérifie un certain nombre de choses. Si la personne n'a pas déjà gagné ou ce genre de truc. Donc, je peux pas vous le faire en direct, en fait. Il faut un huissier. Non, alors, Hermite de la Serpillière, pour avoir travaillé beaucoup sur les jeux concours dans une autre vie, dans mon ancien métier, l'huissier n'est indispensable que dans certaines situations de jeux concours. Les jeux concours sous huissier, c'est indispensable dans certaines conditions. Il y a beaucoup de lois qui encadrent les jeux concours, il faut le savoir. Allez, on va passer à la tartine. Ce matin, waouh, on va être très en retard ce matin. Mais on va quand même faire une tartine. On ira un petit peu vite, mais j'ai quand même des questions à vous poser. Parce que on va parler justement de trottinettes électriques, de tous ces moyens de transport. Et j'ai envie d'avoir un petit peu l'avis de la chatroom sur la technologie et les usages. Donc c'est tout de suite dans la tartine. Et la tartine, effectivement, je rebondis sur un article que j'ai lu qui m'a fait un petit peu froid dans le dos et qui vous fera froid dans le dos aussi, puisqu'on parle de l'augmentation des accidents en trottinette électrique et autres moyens de transport urbain technologique. Une augmentation aujourd'hui de 222% des accidents entre 2014 et 2018. C'est l'étude qui a été faite. Des accidents assez graves, hein, avec une augmentation effectivement des morts, mais beaucoup de traumas au crâne, de fractures, etc. Les hôpitaux commencent à tirer la sonnette d'alarme en disant qu'il faut effectivement renforcer la sécurité de ces véhicules. Les gens prennent un peu des scooters et des scooters électriques et des trottinettes sans vraiment respecter le code de la route. On est extrêmement vulnérable sur ce genre de truc. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité aussi des constructeurs. L'accès au casque, le casque, à mon avis, devrait être obligatoire sur les trottinettes. Je crois qu'il l'est, hein, maintenant en France, le casque obligatoire. Vérifier, je suis pas sûr. Mais voilà, ils bardent d'innovation ces trottinettes, qu'il y ait aussi un casque intégré, qu'on puisse pas voler et que les gens puissent mettre un casque quand ils empruntent une trottinette une trottinette électrique sans devoir se trimballer un casque tout le temps. Donc il faut renforcer la sécurité. Oui, c'est obligatoire avec les nouvelles lois, effectivement, sur la trottinette électrique. Je pense aussi que l'aménagement des villes doit être fait pour accueillir ce nouveau mode de transport. Et c'est justement, et là je me retourne vers la chatroom maintenant, est-ce que vous pensez que ces trottinettes électriques et tous ces nouveaux moyens de transport, hein, boosted board, one wheel et tous ces trucs-là, sont un progrès, une régression? Est-ce que vous-même, vous les utilisez? Est-ce que vous pensez que les villes sont pas adaptées? C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Moi, je vais donner un peu mon avis pour vous inspirer pendant que vous donnez vos premiers avis dans la chatroom. Moi, je pense que c'est quand même un progrès. Je pense que par contre, maintenant, il faut passer en phase 2. Il faut que les villes soient mieux aménagées pour ce type de transport, qu'il y ait un minimum de formation des usagers de ce type de transport individuel. Mais je pense, et pourtant, j'étais un des... Comme tous les Parisiens, j'ai râlé contre... Ça va mieux, hein, mais il y a une époque très bordélique avec les trottinettes électriques où on en avait partout sur les trottoirs. J'étais le premier à râler comme un vieux con devant les cimetières de trottinettes et ce genre de choses. Et pourtant, je pense que c'est un progrès pour le déplacement urbain. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un progrès, mais l'utilisateur est un peu immature avec ça. D'accord. Donc, Hermite de la Serpillière, c'est vrai que les utilisateurs, il faut les former un peu. Il faut déjà que les automobilistes ne se garent pas sur les pistes cyclables. Ça, c'est vrai aussi. Faut éduquer les utilisateurs de trottinettes électriques et adapter les routes. On est bien d'accord, Scanix. Pas encore de trottinettes dans ta ville, d'accord. Il faut les mettre sur la piste cyclable. Alors, je crois qu'aujourd'hui, tu peux être sur la piste cyclable, mais c'est limité à une vitesse assez basse. Je ne sais plus. Il y a plein de nouvelles lois, hein, qui sont sorties. À Bruxelles, c'est clair que ce n'est pas du tout adapté. Les usagers de ce type de transport se retrouvent au milieu de la circulation, car il n'y a déjà pas de piste cyclable partout. Ouais. Donc, c'est vraiment le problème, hein. Toi Gaëtan, t'es en trottinette manuelle, je suis très attentif à mon entourage, quitte à mettre le pied à terre dans ma ville 3, mais certains en trottinette électrique font n'importe quoi comme les vélos. Le problème, je pense, c'est la trottinette manuelle, comme voilà, t'es obligé aussi de faire attention parce que tu te meus avec la force musculaire. Le truc de la trottinette électrique, c'est qu'on les voit, hein, ils sont tout fiers sur leur truc. Et puis, on sent qu'ils sont en train un peu de penser à autre chose. C'est assez facile à conduire, donc tu te balades tranquille, on sent que l'esprit commence à divaguer, et paf, ils se prennent la bagnole. Putain, j'ai très bien réussi mon imitation de Louis de Funès. Et paf. C'est la chatroom parisienne de Naotech, trottinette électrique, on ne connaît pas chez nous. Ah, ça y est, on va retourner au vieux clivage de la chatroom, les Parisiens versus le reste de la France. Non, mais j'ai bien précisé, effectivement, que la trottinette électrique, c'est dans les paysages urbains que ça a beaucoup changé les choses. Il n'y a pas que des gens qui habitent à la campagne. Arrêtez, hein, avec ce campagnérisme à outrance. La France n'est pas la campagne non plus, monsieur. Hein. Tout le monde n'habite pas dans une ferme reculée à 15 km de la première âme humaine. Je dis rien, je suis bientôt parisien, on va dire rien. I love rien, I'm parisien, j'adore ce t-shirt. Ce qui me rend fou, c'est de les retrouver dans les arbres ou dans la flotte, alors qu'à la base, c'est une belle avancée pour l'environnement. Ouais, bon, après, ça se discute, hein, l'avancée sur l'environnement dans les méthodes de fabrication des trottinettes, mais c'est un autre débat. Mais je suis d'accord, le vent, ça a montré aussi à quel point les gens, certaines personnes sont irrespectueux des biens, à balancer des trottinettes dans la flotte et dans les arbres. Ça reste un véhicule terrestre à moteur, donc vigilance pour les piétons, tout à fait. Pas de trottinette chez nous, fait trop chaud. Et c'est pour les bobos parisiens. Ah voilà, tout de suite. Hein. Hein, espèce de bobo campagnard. tu as tout à fait raison, comme les vélos, ils roulent vite à côté de piétons. En arrivant en silence. Je pense, alors ça, tu mets le doigt sur un problème. Je pense qu'il y a un vrai problème du silence de ces véhicules-là. Moi, le nombre de fois que j'ai failli m'enquiller, mine de rien, c'est presque plus silencieux qu'un vélo. Le nombre de fois que j'ai failli me payer comme ça, c'est... Alors, les voitures électriques, on commence à les repérer parce qu'on commence à avoir l'habitude, mais ces trucs-là, ça arrive quand même assez vite et très silencieusement, ouais. À la sortie du lycée, il y a plein d'ados qui montent à deux ou trois sur ces trottinettes. C'est interdit maintenant. C'est interdit. Bon, les sourds ne meurent pas tous écrasés. Oui, après, il faut être vigilant. Hein. À la campagne, on a toujours la mobilette. J'ai 62 ans, je me déplace en trottinette à Bordeaux, mais le comportement de certains fait peur. D'accord, merci de ton témoignage, Jean-François. Le casque est un accessoire personnel, il doit être lié à l'utilisateur et non pas à la trottinette. C'est pas faux. Alors après, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'avoir des petits bonnets de douche pour protéger tes cheveux de la dégueulasserie des autres et mettre ton casque par-dessus? Je sais pas. Putain, innovez les mecs, trouvez-moi quelque chose. Hein, je suis pas là pour résoudre tous les problèmes non plus de la société. Le crâne est obligatoire. Franchement, quand je vois ce que certains disent et ce que certains font, je me demande si le crâne et surtout ce qu'il y a dessous est vraiment obligatoire. Arrête de mentir, t'es en hélico, bien sûr. Il m'attend d'ailleurs dans la cour de l'atelier. Un casque pliable, une idée pour une start-up. Mais il y a déjà des casques pliables qui existent, je crois. Un bonnet de douche, on appelle ça une charlotte, et je ne lirai pas la fin de ton commentaire, parce que... mais c'est drôle quand même. Ça existe, le petit bonnet pour mettre sous le casque. Bon, ben voilà. Donc on pourrait très bien avoir sur la trottinette un casque clipsé, protégé, que tu enlèves. Tu mets ta petite charlotte sur la tête, tu mets ton casque et c'est bon. Ben voilà. Et si on mettait la trottinette sur la tête? Ça commence à déraper dans la chatroom, donc je pense qu'il est temps qu'on arrête cette tartine et que nous passions à la dernière rubrique. Nous avons beaucoup de retard ce matin. Je m'en excuse auprès de Samuel, qui doit fulminer dans son coin, notre maître de l'heure. Mais je prévois quand même l'arrêt de l'émission vers 9h15. Et nous allons passer au Cornfac, où vous allez pouvoir me poser des questions, où je vais pouvoir y répondre. Et c'est tout de suite la dernière rubrique de l'émission. Il n'y a pas que Samuel qui fulmine. Écoute, Émilie Marie, moi je veux mettre personne en retard. Si vous devez partir, partez. Je ne vous retiens pas. Bon, vous allez rater quand même des super réponses à des super questions. Mais moi, je suis pas responsable auprès de votre patron. Je ne signerai pas un petit mot d'absence à cause des retards de l'émission. Non, 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 ne comptez pas sur moi. D'ailleurs, Gilles nous quitte. Bon week-end à toi. Allez, est-ce qu'on n'a pas de questions Platinium ce matin? Donc, vous pouvez attaquer tout de suite avec vos questions. Le tag de Apple, on en est où? C'est quoi le tag de... Ah, le tag d'Apple. Eh bien, écoute, je dînais avec Tim Cook hier et il m'a dit « Jerome, get the fuck out of my office ». Voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit. Donc, ça veut dire... On avance un petit peu sur le tag, mais on va rien te dire, Jérôme. Donc, j'ai pas plus d'infos que ça. C'est quoi déjà le gros bloc disque dur dont tout? J'ai pas compris ta question, le tutoriel. J'ai une super idée, je déduis les retards des mugs sur les jeudis VIP. Non, Samuel, c'est une très mauvaise idée. Il faut qu'on avantage nos contributeurs. C'est un peu l'idée quand même, Samuel. les news de l'APK Shadow. Non, ou alors les retards. Ouais, non, non. Non, oublie, j'ai que des mauvaises idées ce matin. C'est quoi le disque dur de Nowtech? Je comprends toujours pas ta question, le tutoriel. Le disque dur, d'abord, on a plein de disques durs différents. Tu vas tester une moto électrique à Paris? Ah non, moi, je fais même pas de trottinette électrique. Je déteste tout ce qui a un moteur et je suis pas... je marche à pied, moi. Non, mais c'est vrai, en plus. Je ne peux pas me résoudre à te quitter, mais moi non plus, François Le Pape. Petite question, en effet, l'achat d'un iPad Pro aujourd'hui vaut le coup en vue de ceux qui pourraient sortir cette année? Oui, parce qu'à force d'attendre ce qui va sortir, tu vas jamais acheter quoi que ce soit. Parce que dès que le nouvel iPad sort, il est déjà obsolète. Hein. Le compte à rebours a enclenché. Donc achète maintenant un iPad, il sera tout aussi bien que le nouvel iPad. Le disque externe que tu as fait la vidéo dessus. Ah, d'accord. Notre gros disque de montage G-Technologie. C'est pas un NAS. Ça ressemble à un NAS, mais c'est pas du tout un NAS. Donc, c'est le shuttle de chez G-Technologie. Mais c'est pas du tout un NAS. Il n'est pas partagé sur le réseau. Hein. Jérôme, je pense que j'ai compris ta mauvaise idée. Je confirme, c'est une mauvaise idée. On est d'accord, Samuel. Il y a tout de même des gens rigides dans cette chatroom. J'ai pas suivi toutes les discussions. Je pense qu'il veut savoir si tu as utilisé. Non, pour l'instant, on n'a pas. Je cherche une solution Mais ce n'est pas un NAS de particulier qu'il nous faut, nous. En fait, c'est des solutions connectées pour studio de montage, ça vaut très très cher, qui ne sont pas reliées qu'en Ethernet, mais aussi en Thunderbolt 3. Enfin bref, je vous en parlerai quand on aura les sous pour s'en acheter un. Cinéastus te manque. Écoute, je trouve ça dommage qu'il ait un peu disparu. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Il s'est fait voler tout son matos. Je sais ce que c'est, ça m'est arrivé au début de la chaîne. Je me suis fait voler 7 000 € de matos sans assurance. Parce qu'il n'y a pas d'assurance sur ce... Enfin bref, on ne va pas rentrer. Je sais à quel point c'est dur et que ça peut être un coup au moral. Et moi aussi, j'ai failli tout arrêter. Il a fait ensuite... Il a appelé ses contributeurs pour se racheter du matos. Et ensuite, il a arrêté sa chaîne. Je vais vous le dire, avec toute la sympathie que j'ai pour Cinéastus et l'émission que j'ai fait avec lui, c'était très bien. J'ai trouvé ça un peu choquant. Moi, j'ai jamais demandé d'argent pour rembourser mon matos aux contributeurs parce que j'estime que les contributeurs... Et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur. Je condamne pas ceux qui utilisent le système contribution pour se racheter du matos après un vol. Je ne juge pas. Je sais juste que moi, je le fais pas. La contribution chez moi sert uniquement au salaire et pas ni au loyer, ni au matos, ni à mon salaire à moi. Ça sert que au salaire des gens qui travaillent pour Nowtech. Et en plus, voilà, récolter de l'argent et arrêter sa chaîne tout de suite après, j'ai pas trouvé ça top, quoi. Donc, son contenu manque. Maintenant, je trouve ce qu'il a fait mériterait quelques explications. Je sais pas, il les a peut-être fait, hein, les explications. Voilà. Les scuds me manquent. Hey, on en est à 12 ans. C'était il y a 12 ans, les scuds. Passe à autre chose, David. Il devient quoi, le mec de Cinéastus? On lui a repayé de matos. Ben voilà, effectivement. J'ai pas de nouvelles. Hein. J'ai pas du tout de nouvelles. Hypoglycémie et Apple Watch. C'est une question, Ramonage. Après que l'Apple Watch va servir à mesurer la glycémie pour les diabétiques et éviter les hypoglycémies ou les hyperglycémies et les hypoglycémies, ça serait une bonne chose. Oui, c'était ça ta question. Je sais même pas s'il a récupéré des contributions, s'il n'a pas réuni assez. Ah oui, d'accord. Bon, après, je veux pas faire mon langue de pute. Je sais juste que j'avais vu qu'il avait fait une contribution pour récupérer son matos volé et qu'après, il avait arrêté la chaîne. J'ai juste eu ce niveau d'info là. Hein. Sinon, pour les news, des mises à jour de Pokémon, ça compte. J'ai pas traité Pokémon, mais effectivement, il y a des mises à jour. J'ai pas traité la news. Parce que je suis pas très Pokémon, en fait. Xiaomi peuvent-elles communiquer avec les You? Alors, j'ai jamais essayé, mais il faut savoir qu'effectivement, avec des trucs comme Home, Google Home et tout ça... Tu peux rassembler plusieurs marques d'ampoules connectées. Il y a aussi, je crois que les ampoules IKEA, tu peux les mettre dans l'application Philips Hue. J'ai juste jamais essayé. Tu viens en trottinette à l'atelier. Écoute, j'habite à 3 minutes à pied de l'atelier, donc j'aurais l'air con avec une trottinette, je perdrais du temps. Après, ceux qui veulent commencer YouTube, allez voir les vidéos de Cinéastus. C'est ultra quali. Encore d'actualité. Ça sera toujours d'actualité. C'est effectivement quelqu'un qui a apporté quand même une grande connaissance des milieux du cinéma. Elles restent très bien, hein, les vidéos de Cinéastus. Est-ce que tu utilises l'application IFTTT? J'avoue peu parce que j'ai jamais pris le temps, ni eu le temps de faire. De programmer d'IFTTT intéressant. Un jour, je me plongerai dans IFTTT. Des nouvelles du MX4 casque de Sony au CES. J'ai pas eu de news là-dessus. Tu penses quoi des écouteurs avec sensation des écrans avec la sensation du toucher? Bah, il faut voir. Est-ce que ça apporte quelque chose d'utile? Ça peut être intéressant, hein, du feedback sensoriel. Faut juste qu'on développe les apps qui rendent ce truc-là intéressant. Pour la domotique et le respect de la vie privée, Amazon Echo ou Google Home. J'ai envie de dire, mais rien chez toi si tu veux vraiment que ta vie reste privée. Voilà, c'est un peu ma réponse aujourd'hui. C'était pas ma réponse l'année dernière, où j'avais un peu tendance à dire, ouais, c'est pas si grave que ça, machin et tout. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, si t'as vraiment envie d'avoir de la vie privée, mais pas un assistant personnel chez toi. C'est un peu ma position cette année. J'en ai mis plein l'atelier. Des assistants, j'ai les trois assistants personnels ici. Ça me sert à rien qu'à juste déclencher des trucs rigolos, mais j'en ai pas mis chez moi. Voilà, il est 9h15, hein, déjà j'ai envie de rester, moi. Allez, je veux, non, il faut qu'on arrête, faut qu'on soit un minimum raisonnable. Même si c'est vendredi quand même, et que le vendredi, tout est permis. Allez, je prends une dernière question. T'as combien de stockage dans ton Shadow actuellement? Moi, mon Shadow, il est à 2 terrains de stockage. Un setup lumière pour 150-350 en 2020 pour une prestation vidéo. C'est super technique ta question, Brice, je ne peux pas répondre là. On va faire des vidéos sur la lumière. Je sais pas quand, mais on va faire des vidéos sur la lumière parce que j'ai beaucoup cette question-là. Je sais que mon message de sensibilisation que la lumière est plus importante que la caméra a porté ses fruits. Il est temps que je vous apporte maintenant des solutions par rapport à la lumière. Ça va venir sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous, hein. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. On se retrouve lundi pour un nouveau mug. Guettez bien, il devrait y avoir une vidéo qui devrait arriver ce soir. Grosse vidéo, hein, de 30 minutes, test très exhaustif, Stadia versus Shadow PC, avec une ouverture du débat sur le cloud gaming, a-t-il de l'avenir? Donc, grosse vidéo, hein. J'ai encore pas mal de travail dessus aujourd'hui. Et je vous retrouve lundi, bon week-end à tous, ciao tout le monde!